Et on termine avec la revue de presse pour cette émission de Sans détour. On commence au Japon, où une étude, donc, pour la sclérose en plaques, nous parle du fait que la sclérose en plaques pourrait être causée ou du moins accélérée par la microbiote buccale. Donc, la sclérose en plaques étant une maladie auto-immune qui attaque la gaine myéline, donc, qui est la gaine autour des neurones dans le cerveau et qui cause des troubles moteurs et de la fatigue chronique. Inclut des facteurs de risque, les infections virales, le tabac, la carence en vitamine D et une prédisposition génétique. Mais l'étude japonaise nous parle de la microbiote intestinale et buccale qui pourrait devenir donc un facteur de risque pour la sclérose en plaques. Bien que le microbiome intestinal ait fait l'objet de plusieurs recherches dans le contexte de sclérose en plaques, l'application de la microbiote buccale reste largement inexplorée. La cavité buccale est une source majeure d'inflammation chronique. Ça pourrait représenter donc un facteur potentiel risque au niveau de la sclérose en plaques, étant donné donc que l'inflammation est un facteur de la sclérose en plaques et un facteur de l'aggravement de la sclérose en plaques. Et la maladie parodontale, donc l'infection chronique des gencives, touche 40 à 60% de la population mondiale, donc il pourrait avoir un lien entre le fait d'avoir de l'inflammation donc effectivement dans la bouche et la sclérose en plaques pour qui est causée, donc je le disais là, entre autres l'un des facteurs de risque et l'inflammation. Donc c'est toujours une hypothèse qui a été mise d'avant là par Masahiro Nakamori qui est professeur donc à l'université de Kyoto. Ils ont recruté donc 98 patients atteints de maladies démyélinisantes, et donc avec différents types de cette maladie-là. Ils ont fait des prélèvements pour savoir s'ils avaient un lien entre une forte abondance de la bactérie qui cause l'inflammation dans la bouche et une association avec donc la sclérose en plaques. C'est une première étude qui pourrait montrer que la sclérose en plaques est influencée par la gravité de l'inflammation buccale. Effectivement, il faudra continuer les recherches. C'est une première recherche sur 98 patients. Il faudra faire d'autres recherches et mieux comprendre les liens entre la sclérose en plaques et l'inflammation buccale, mais ça reste une piste à explorer qui n'avait que très peu été explorée avant. Donc, on verra dans les prochaines années si on réussit à faire un lien un peu plus direct entre ces deux facteurs. On va en France maintenant, alors que la loi de 2005 pour l'égalité des droits fête ses 20 ans. C'est la loi qui avait permis donc de rendre obligatoire la scolarisation des enfants avec en situation de handicap. Et 20 ans après, ben, ce qu'on se rend compte, et on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, là, c'est qu'il y a toujours un manque de scolarisation des enfants qui ont un handicap, entre autres par manque de ressources. Mais on va aussi se pencher aujourd'hui sur les conservatoires. Les conservatoires qui sont des écoles spécialisées en art, entre autres en musique et en danse ou en art dramatique. Qu'en est-il de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans ces écoles qui sont plus spécialisées? En fait, si la loi permet ou donc oblige, devrais-je dire, l'inclusion des enfants en situation de handicap dans des écoles régulières, il n'y a rien qui oblige l'inclusion de ces enfants-là dans des écoles spécialisées comme les conservatoires qui sont spécialisés dans les arts. Par contre, il y a des écoles qui des écoles des conservatoires donc qui demandent plus de ressources pour mieux inclure les personnes en situation de handicap dans les conservatoires pour avoir une vision donc qui est moins médicale de l'handicap et plus sociale parce que évidemment les personnes en situation de handicap ont le droit d'avoir accès aux arts comme tout le monde et leur éducation devrait dépasser la simple éducation élémentaire. Ils devraient avoir la même chance que les autres d'avoir accès au conservatoire. Par contre, comme je le disais, il n'y a aucune obligation légale de la part des écoles qui sont plus spécialisées d'accueillir et d'accommoder des enfants en situation de handicap, ce qui cause un trou dans la loi qui devra être adressé. Mais encore faut-il, bien sûr, là, on parle d'une loi de 2005 et on n'a toujours pas scolarisé tous les enfants qui avaient des handicaps dans les écoles régulières. Donc, leur adhésion au conservatoire risque de ne pas être une priorité, mais je trouvais intéressant là, d'avoir cet enjeu, c'est-à-dire que les écoles spécialisées n'ont aucune obligation de rendre accessibles leurs locaux, leurs cours à des personnes qui sont différentes. On continue toujours en France alors que l'Association nationale de l'audition lance une alerte par rapport au bruit au travail parce que en fait à leur avis on sous-estime le bruit et il fait du bruit au travail entre autres parce que on est beaucoup porté vers ce qu'on appelle les open space, donc les espaces grands, les espaces ouverts où on a plus ou de moins en moins de bureaux où les gens travaillent sur des grandes tables dans des espaces ouverts, ce qui favorise la collaboration entre les collègues. Et c'est une bonne chose et on se tourne vers ça parce que de plus en plus là les spécialistes au niveau du travail et des ressources humaines entre autres disent que ces modèles-là sont plus favorables à être euro travail, sont plus favorables également au fait de communiquer entre nous et d'avoir un meilleur travail d'équipe. Par contre, ce qu'on n'a pas pensé, c'est que dans ces endroits-là, ben le bruit est beaucoup plus important et ça peut causer des problèmes à des personnes qui ont un handicap ou qui n'ont pas d'handicap, mais qui pourraient en développer un, là, qui pourraient développer des problèmes de surdité, étant donné que le niveau de bruit est trop important et qu'on a peu d'accès à des endroits où le bruit est réduit, hein, étant donné qu'on n'a plus de bureau seul, mais on peut plus s'enfermer dans les bureaux lorsqu'on en a besoin. Donc, c'est l'Association nationale de l'audition qui demande à ce qu'on se penche sur cette question-là et qui dit qu'au final, notre bonne idée a causé aussi des problèmes et que ça cause des problèmes d'audition pour les personnes. Donc, ça crée finalement des handicaps, des situations de handicap. On parle de 1000 cas de surdité professionnelle qui sont reconnus en France. Donc, des gens qui deviennent sourds ou malentendants à cause de problèmes de surdité, à cause du bruit au travail qui a été trop important pendant une longue période et on n'avait pas mis en place des éléments pour prévenir ces problèmes-là. Donc, on demande une meilleure mise en place d'éléments de prévention pour ces gens-là parce que, évidemment, bah, ça crée un handicap qui, par la suite, est permanent pour ces personnes-là avec tout ce qui vient avec un nouvel handicap puis toute l'adaptation qu'on doit faire par la suite à un nouvel handicap. Donc, encore une fois, ce sera à suivre au niveau de ces enjeux-là qui sont, entre autres, exacerbés là, par notre façon de travailler dans des espaces ouverts. Donc, c'était tout pour la revue de presse. Je vous revois la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine, tout le monde. Prenez soin de vous.